Pour la dignité, cette émission sur les droits humains, préparée et animée par Régis Coulanges, responsable formation Amnesty International, c'est tout de suite. Bonjour Régis.
Oui, bonjour Odile, bonjour à tous. Voilà, ben, septembre arrive et c'est donc la rentrée, et c'est aussi la rentrée pour le groupe d'Amnesty de Digne, bien que dans l'été, on a continué à envoyer des courriers pour demander justice. Voilà, alors dans cette émission, deux bonnes nouvelles déjà. Au Liban, le Liban a aboli la peine de mort. C'est devenu le premier pays arabe à abolir ce châtiment inhumain, cruel et dégradant. Et puis, deuxième bonne nouvelle, c'est la libération du prisonnier dont on s'occupait, l'artiste cubain Luis Manuel Otero Alcantara, qui est enfin libre après 5 années de prison injustifiée. Voilà, donc c'est deux bonnes nouvelles. Puis on parlera des exécutions extrajudiciaires à Gaza. Alors Amnesty a été parmi les premiers à dire que Israël menait une politique d'apartheid et en même temps a été aussi dans les premiers à dire que ce qui se passait à Gaza était du génocide. Ça ne nous empêche pas de critiquer aussi... le Hamas qui fait des exécutions extrajudiciaires à Gaza. Voilà, on ne prend pas Amnesty, on ne prend pas parti pour telle ou telle politique, opinion politique. On juge les faits et quand ils sont en contradiction avec les droits humains, avec la Déclaration universelle des droits de l'homme, on le dénonce, quel que soit le régime. Voilà, on parlera de l'Afghanistan, du meurtre d'une journaliste au Liban, et puis du bénévolat Amnesty International, et puis on finira par les actualités du groupe Dinois. Voilà, alors, vous savez qu'on est en lien avec Antoinette Chahine, au Liban, qui est une ancienne prisonnière d'opinion, qui avait été condamnée à mort, qui avait été torturée pour un crime qu'elle n'avait pas commis. Amnesty était intervenue lors de son procès en appel, et toute sa condamnation qui reposait sur des témoignages faux ont disparu et elle a été innocentée et libérée. Mais elle avait quand même passé des années en prison quand elle était très jeune. Et depuis sa sortie, elle milite contre la torture qu'elle a vécue et contre la peine de mort dont elle avait été victime, puis ça avait été commué en prison à vie, avant d'être donc innocentée. Elle est venue très souvent à Digne, et notamment parler aux jeunes, dans les lycées, au Davinel, et au Pierre-Gilles de Gênes, notamment au LEP aussi, elle était venue. Et elle se bat donc contre la torture, la peine de mort, et son grand espoir, c'était que le Liban devienne le premier pays abolitionniste. Et c'est ce qui est arrivé. Alors, elle était en pleurs. C'était un grand bonheur pour elle d'être arrivée à ça. Voilà. La décision du Liban d'abolir la peine de mort marque une étape majeure et une victoire pour les droits humains dans le pays. La justice doit se fonder sur les droits humains et non sur un châtiment irréversible et cruel. Après plus de 2 décennies sans exécution, la décision prise aujourd'hui transforme une suspension précaire des exécutions en une protection juridique durable qui garantit le droit à la vie et met le Liban en cohérence avec la tendance mondiale en faveur de l'abolition. C'est ce que a dit Eba Moraïev, qui est directrice du programme régional Afrique du Nord et Moyen-Orient à Amnesty International. L'adoption de cette loi témoigne de décennies d'une mobilisation inlassable des défenseurs des droits humains et des organisations libanaises, ainsi que du rôle moteur joué par des responsables clés qui ont reconnu que la peine de mort constituait un châtiment cruel et inhumain, souvent prononcé à l'issue de procédures iniques et qui touche fréquemment, de manière disproportionnée, les plus défavorisés. Pour que cette loi passe de la théorie à la pratique, les autorités libanaises doivent veiller à ce que toutes les condamnations à mort soient commuées, ratifiées et ratifier le principal traité international relatif à l'abolition, tout en menant des réformes d'envergure afin de renforcer un système judiciaire fondé sur la dignité, l'équité et le respect des droits humains. Elles doivent accompagner cette loi d'une réforme législative plus large, notamment afin de garantir que toutes les sanctions pénales soient conformes aux principes relatifs aux droits humains. Le Liban n'a procédé à aucune exécution depuis le 17 janvier 2004. Fin janvier 2026, 85 personnes restaient sous le coup d'une sentence capitale, selon la direction des prisons du ministère de la Justice. L'adoption de cette loi fait suite aux efforts soutenus de la société civile libanaise, et notamment d'Antoinette Chahine, et internationale. En tête de proue de ce travail de plaidoyer, citons l'Association libanaise pour les droits civils, la campagne nationale pour l'abolition de la peine de mort au Liban et l'association Justice et Miséricorde. Pour que l'abolition de la peine de mort soit irréversible au regard du droit international relatif aux droits humains, les autorités libanaises doivent ratifier le deuxième protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort. Amnesty International s'oppose à la peine de mort en toutes circonstances, sans exception. Quelle que soit la nature du crime commis, les caractéristiques de son auteur et la méthode d'exécution utilisée par l'État. Le Liban va devenir le 114e pays à abolir la peine capitale pour tous les crimes lorsque la loi entrera en vigueur. En tout, 145 pays dans le monde sont abolitionnistes en droit ou dans la pratique, tandis que 54 maintiennent ce châtiment. Voilà, et dans ces 54, il y a beaucoup de pays dictatoriaux. On va écouter maintenant une chanson de Léa Morel, Les larmes du silence.
J'ai compté les heures, j'ai compté les blessures. Chaque mot que tu t'es m'a laissé sans armure. Ton ombre s'attarde au bord de ma mémoire. Et mes nuits s'effacent sans éclat, sans espoir. Dis-moi pourquoi je reste quand tout. J'écris ton prénom sur des murs invisibles. Et ton souvenir brûle comme un livre impossible. Chaque souffle me pèse, chaque pas me trahit. Je marche dans tes ruines, mais tu n'es plus ici. Je cherche une lumière qui n'est pas. J'ai le cœur en morceaux, perdu dans ton absence. Je me noie sans écho.
Maintenant, on va parler de Gaza. Le 1er juillet 2026, un homme est exécuté en place publique à Gaza. Il est accusé d'espionnage pour le compte d'Israël. Depuis, des responsables de la branche armée du Hamas ont annoncé le lancement d'une campagne de sécurité à grande échelle, faisant craindre l'exécution de personnes soupçonnées de collaboration avec Israël. Et pour cause, entre août 2024 et janvier 2026, 249 cas d'exécution extrajudiciaire et de graves violences ont été recensés par la Commission internationale indépendante des Nations Unies, chargée d'enquêter dans le territoire palestinien occupé. Ces violences ont entraîné la mort d'au moins 108 personnes. Plus de la moitié de ces actes impliquaient les forces affiliées au Hamas. Des exécutions souvent en pleine rue, filmées et relayées sur des pages liées au Hamas. Dans une nouvelle enquête, nous avons documenté 9 exécutions extrajudiciaires et un homicide illégal perpétré par le Hamas. La population de Gaza, déjà exposée à des souffrances inouïes en raison du génocide en cours depuis le 7 octobre 2023, doit aussi endurer les homicides et les violences des forces du Hamas. Des actes criminels commis en dehors de tout cadre légal et en toute impunité. La souffrance endurée par la population à Gaza est insoutenable. Nous appelons les autorités du Hamas à cesser immédiatement ces massacres et les arrestations arbitraires. Les responsables des exécutions extrajudiciaires, des arrestations arbitraires et des actes de torture doivent rendre des comptes. Le 10 octobre 2025, des forces affiliées au Hamas tentent d'expulser une famille d'un hôpital de campagne situé près d'Al-Sabra à Gaza. La famille Dougmouch y avait trouvé refuge pour échapper aux frappes israéliennes. Elle est accusée par le Hamas d'avoir pillé l'hôpital et de s'en être servie pour stocker des armes et des explosifs. Durant une semaine, la famille est encerclée par le Hamas. Pendant le siège, les forces du Hamas pillent, incendient et saccagent la zone. 4 membres armés de la famille et un membre du Hamas sont tués durant l'affrontement. En parallèle, 8 membres non armés de la famille Dougmouch, accusés de collaboration à Israël, sont exécutés. L'exécution est filmée et diffusée sur les réseaux sociaux. Les 8 hommes de la famille y apparaissent dénudés. Ils présentent des signes de blessure. Ces hommes s'étaient rendus parce qu'on leur avait promis un procès équitable, mais ils ont été exécutés en public 2 heures plus tard, nous a confié un proche de l'un des hommes exécutés, des propos corroborés par 2 autres résidents. Quelques jours après les exécutions, des proches ont reçu des excuses d'officiels du Hamas. Certaines personnes avaient été tuées par erreur. Les autorités du Hamas nous ont déclaré avoir ouvert une enquête préliminaire. Selon nos informations, personne n'a été tenu pour responsable à ce jour. Hicham al-Saftawi, aussi, a subi la cruauté et l'impunité des forces armées du Hamas. Le 17 octobre 2025, 30 hommes ont pénétré dans sa maison, située dans le camp de personnes réfugiées de Al-Bourej. Les individus s'identifient comme des membres des brigades al-Qassam. Ils viennent l'arrêter. Hicham refuse de se soumettre à l'arrestation. Un homme lui tire dans le dos. « Qui t'a ordonné de le tuer ?» Voilà ce qu'aurait asséné l'homme qui semblait être aux commandes du groupe à l'auteur du tir, nous a confié Naja al-Saftawi, la femme d'Hicham, présente lors du meurtre. Hicham succombera de ses blessures à l'hôpital un jour plus tard. En réponse à Amnesty International, le Hamas a confirmé avoir lancé une enquête officielle et déclaré qu'il s'agissait d'un meurtre accidentel après qu'Hicham ait tenté de fuir alors qu'il était recherché pour des infractions pénales. À ce jour, la famille n'a toujours pas reçu les conclusions de l'enquête et personne n'a encore été tenu pour responsable. Son frère dit avoir perdu espoir. « On ne peut pas se fier au bourreau pour enquêter sur lui-même. Nous demandons une enquête indépendante et ceux qui ont tiré sur mon frère ainsi que ceux qui ont ordonné son arrestation doivent rendre des comptes. » Plus récemment, le 1er juillet 2026, un homme a de nouveau été exécuté publiquement à Gaza. Il était accusé d'avoir révélé la localisation de membres haut placés des brigades al-Qassam, dont le commandant Ezzedine al-Haddad. Une information qui aurait mené au meurtre de ce dernier et de nombreux autres civils et palestiniens et palestiniennes par l'armée israélienne. La vidéo de son exécution est relayée par des comptes des membres affiliés au Hamas. Quelques jours plus tard, des chaînes Telegram associées aux membres des brigades Al-Qassam annoncent avoir arrêté un autre informateur et promettent de l'exécuter dans les jours qui suivent. Depuis la reprise de la bande de Gaza en 2007, le Hamas a systématiquement échoué à mettre en place des enquêtes indépendantes sur les violations des droits humains de ses forces armées. Jusqu'au début du génocide perpétré par Israël, les tribunaux de Gaza ont appliqué la peine de mort, souvent à l'issue de procès entachés de graves irrégularités. Sur place, le génocide et les conditions de vie désastreuses imposées par Israël depuis le 7 octobre 2023 ont encore aggravé la situation et pavé le chemin vers l'effondrement de l'ordre public, la destruction du tissu social et la montée du chaos et de l'anarchie. Les forces israéliennes ont pris pour cible les structures traditionnelles chargées de l'application des lois et du système judiciaire, ainsi que des membres de la police et des forces de sécurité. Cela, tout en armant et en soutenant les milices locales opposées au Hamas. Enfin, l'impunité du Hamas concerne aussi les crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis le 7 octobre 2023 contre des civils israéliens, pour lesquels justice et réparation continuent à être exigées. Nous appelons les autorités du Hamas à cesser immédiatement les homicides illégaux et les arrestations arbitraires. Quant aux responsables des exécutions extrajudiciaires, des arrestations arbitraires et des actes de torture, ils doivent rendre des comptes et les victimes obtenir justice et réparation. Par ailleurs, une fois de plus, nous appelons Israël à mettre fin au génocide en cours à Gaza, ainsi qu'à l'apartheid et à l'occupation illégale du territoire palestinien. Israël doit assumer ses obligations en tant que puissance occupante en assurant un accès à l'aide, aux biens et services essentiels dont la population a besoin. Voilà, nous allons maintenant écouter un chanteur belge qu'on n'entend plus beaucoup sur nos antennes. C'est Julius Bocarn, « Les loups ont des têtes de mouton ».
Depuis que Lumumba fut tué pour avoir dit sa vérité, depuis que là-haut et là-haut, parce qu'il avait parlé tout haut, depuis qu'on étouffa une fille dans un avion pour pas qu'elle crie, les loups ont des têtes de mouton, derrière les roses il y a des chardons. C'est celui qui est tout en haut, qui tient le manche de la faux. Si ce que tu dis cause souci, tu seras vite raccourci. Celui qui regarde jouer aux cartes, s'il pète un mot trop on l'écarte. Les petits regardants n'ont rien à dire, sur le jeu des grands ça c'est bien pire. Celui qui se tient au perché, il a le droit de vous supprimer. De beaux enfants sautent sur des mines, mais on n'arrête pas la machine. D'autres sont drogués pour tuer, et la cocaïne les défait. Nous vivons en pleine barbarie, les soldats violent toujours les filles. C'est celui qui est tout en haut, qui tient le manche de la faux. Si ce que tu dis cause souci, tu seras vite raccourci. Celui qui regarde jouer aux cartes, s'il pète un mot de trop, on l'écarte. Les petits regardants n'ont rien à dire, sur le jeu des grands, ça c'est bien pire. Chez nous, un jeune homme fut visé, tiré comme un lièvre en un pré pour le diamant qui s'est gagné, a été totalement détruit. Il y a des fabriques et des boutiques de fusillades pas d'ici. La mort fait vivre nos ouvriers, l'emploi est sauf, on laisse couler. C'est celui qui est tout en haut, qui tient le manche de la faux. Si ce que tu dis cause souci, tu seras vite raccourci. Celui qui regarde jouer aux cartes, s'il pète un mot de trop, on l'écarte. Les petits regardants n'ont rien à dire, sur le jeu des grands, ça c'est bien pire. Des femmes sont tuées à chaque jour, par jalousie, par leurs amours. Il y a des petites filles qui sont forcées, et toute leur vie en est gâchée. Il y en a d'autres à qui on enlève le clitoris, leur vie s'achève. À 3 ans, on tourne la page, leur vivant c'est déjà veuvage. Tout le monde veut être tout en haut pour tenir le manche de la faux. Une fois qu'il tient, il veut faucher et le cauchemar de recommencer. Les petits regardants devenus grands veulent jouer au grand jeu des grands. Y en a pas un qui est épargné, tout le monde veut être le premier. Nous sommes 6 milliards tout en bas, marabouté au nom de quoi? Au nom du pèse, au nom du fisc et du sacro-saint bénéfice. Mineurs et majeurs détournés par des bonimenteurs roués qui veulent que nous marchions au pas et dans les souliers de leur choix. C'est celui qui est tout en bas qui est bien plus fort qu'il ne croit. Si nous le voulons, toi et moi, le cauchemar s'arrêtera. 6 milliards de petits regardants peuvent devenir acteurs puissants. 6 milliards de gens conscients ensemble changent le cours du temps.
Voilà, donc on va parler maintenant de l'Afghanistan et notamment de la guerre des talibans contre les femmes. En Afghanistan, durant une 20aine d'années, une génération de femmes et de filles avait pu avoir accès à un minimum d'éducation, à un travail dans la fonction publique ou même à la direction de sociétés privées. Depuis le retour des talibans au pouvoir le 15 août 2021, ce temps est révolu. Une parenthèse d'espoir s'est brutalement refermée pour des milliers de femmes et filles afghanes. Sur place, les femmes et les filles ont été reléguées au rang de citoyennes de seconde zone. Via des décrets, des directives et des décisions répressives et discriminatoires adoptées par les autorités talibanes de facto, les femmes ont été effacées de l'espace public et réduites au silence. Dans notre rapport, La guerre des talibans contre les femmes, publié 2 ans après le retour des talibans au pouvoir, nous revenons point par point sur les violations des droits humains subies par ces milliers de femmes et de filles. Le 14 mai 2026, un nouveau décret venait encore durcir les conditions de vie en légalisant le mariage des enfants. Les dispositions du texte appellent à interpréter le silence d'une fille ayant atteint l'âge de la puberté comme un consentement. Pendant ce temps, les pouvoirs accordés aux hommes pour arranger les mariages de mineurs sont encore étendus, et la capacité des femmes à contester ce type d'union est considérablement restreinte. En 5 ans, le système judiciaire s'est effondré au profit d'un système fondé sur la religion. Les institutions qui servaient autrefois à protéger les droits des femmes ont été démantelées. Résultat, elles n'ont quasiment plus aucun accès à la justice ni à des recours effectifs. Quant aux femmes qui occupaient auparavant des fonctions de juge, procureur et avocate, elles ont été démises de leurs fonctions et forcées à l'exil. À cause de la répression généralisée et des discriminations croissantes à l'égard des femmes et des filles dans le pays, certaines tentent de fuir au péril de leur vie. Mais rares sont celles qui parviennent à se rendre dans les pays limitrophes comme l'Iran et le Pakistan. Et quand c'est le cas, elles s'exposent à de nouvelles violences. Vagues d'arrestations, harcèlement des autorités locales, renvoi de force en Afghanistan. Malgré la répression généralisée, malgré les interdictions, les Afghanes résistent. Elles contribuent à documenter les violations des droits dont elles sont victimes. Elles continuent d'alerter les ONG et de diffuser l'information pour que le monde ne détourne pas le regard. Elles bravent les interdits malgré les risques. Enfin, elle crée des écoles clandestines pour permettre aux jeunes filles d'accéder à une éducation et pour offrir un avenir meilleur aux prochaines générations. En décembre 2023, le gouvernement français a annoncé au Global Forum for Refugees une initiative de réinstallation pour les femmes et les filles réfugiées vulnérables. Par la suite, à de nombreuses reprises, les autorités françaises ont renouvelé leur promesse de rester aux côtés des filles et des femmes afghanes. Elles ont cependant failli à leurs obligations et à ses promesses, ne délivrant des visas qu'au compte-gouttes. Ces dernières années, des avancées laissaient entrevoir un espoir pour les Afghanes. Le 11 juillet 2024, la Cour nationale du droit d'asile a reconnu l'appartenance de l'ensemble des femmes afghanes à un groupe social susceptible d'être protégé comme réfugiés. Cette décision devait faciliter la protection de l'ensemble des femmes afghanes ayant fui les persécutions en Afghanistan et qui demandent l'asile en France. En pratique, à cause de l'inaction politique, peu de femmes afghanes peuvent en bénéficier. En octobre 2024, la Cour de justice de l'Union européenne avait permis aux femmes et aux filles afghanes de pouvoir prétendre au statut de réfugiés au sein de l'Union européenne uniquement sur la base de leur sexe et nationalité. Un pas supplémentaire de franchi par rapport à la décision de la CNDA pour faciliter leur protection. CNDA, Cour nationale du droit d'asile. Puis en janvier 2025, des mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale ont été émis à l'encontre de deux responsables talibans accusés de crimes contre l'humanité pour violation systématique des droits fondamentaux des filles et des femmes du pays. Une avancée pour la justice et pour ces femmes à qui les talibans ont retiré le droit d'exister, de chanter, de vivre. Mais 5 ans après la prise de pouvoir par les talibans, l'Afghanistan s'efface peu à peu du débat public. Les Afghanes sont toujours plongés dans le cauchemar et l'oubli. Pire, les talibans réapparaissent dans certains espaces diplomatiques, comme à Bruxelles en juin 2026. Aux côtés d'autres organisations, nous nous sommes mobilisés pour exiger de l'Union européenne qu'elle ne coopère en aucune manière avec les talibans, en particulier pour faciliter le renvoi d'Afghans dans leur pays. Nous demandons que la communauté internationale prenne des mesures concrètes pour reconnaître l'apartheid de genre en tant que crime de droit international. Cela commence notamment par l'adoption de la Convention des Nations Unies sur les crimes contre l'humanité, actuellement en cours de négociation. On écoute maintenant Mathilde qui chante « Le corps des femmes ».
Mais qu'est-ce qu'il a, le corps des femmes, pour qu'on ne lui foute jamais la paix? Combien faut-il de cris de larmes pour qu'on lui rende sa liberté? Mais qu'est-ce qu'il y a dans toutes les têtes de ceux qui bossent à la télé, sur les antennes, dans les papiers, toujours à vouloir nous glacer, nous enfermer dans leurs idées, leurs idéaux un peu machos, nous asservir pour assouvir comme des salauds leur libido. Mais qu'est-ce qu'il a, mon corps de femme, pour qu'on lui foute jamais la paix? Est-ce que ce serait vraiment un drame si on le montrait comme il est? Le corps des femmes porte leurs âmes, porte la vie, porte leurs drames. Le corps des femmes, leur seule maison, toujours saccagé sans raison. Je veux savoir, savoir pourquoi c'est toujours les femmes que l'on broie. Et pourquoi toi, tout feu, tout flamme, tu as servi le corps des femmes? Mais qu'est-ce qu'il a, mon corps de femme, pour qu'on ne cesse de l'emmerder, pour que toujours dans les réclames on m'y invite à le changer? Mais qu'est-ce qu'il a, mon corps de femme, pour qu'on le voie comme un objet? Si vous voulez le fond de ma pensée, mon corps est parfait comme il est. Oui, je suis libre, oui, je suis belle, j'incarne la beauté. La féminité irascible, ils peuvent parler, ils peuvent juger, ils peuvent détester, cracher, quoi qu'ils en disent et quoi qu'ils fassent. Mon corps de femme est un palace, mon corps de femme porte mon âme, porte ma vie, porte mes draps. Mon corps de femme, ma seule maison, toujours saccagé sans raison. Je veux savoir, savoir pourquoi, c'est toujours les femmes que l'on voit. corps des femmes pour qu'on lui foute jamais la paix.
Voilà, on continue avec le meurtre de la journaliste Amal Khalil au Liban. Israël doit répondre de ses crimes. Les journalistes sont souvent pris à partie dans tous les régimes autoritaires. C'est le cas, donc, le 22 avril 2026. La journaliste libanaise de renom, Amal Khalil, et la caméraman Zeynab Farage se rendent dans le gouvernorat de Nabatieh. Elles enquêtaient sur les conséquences du conflit dans le sud du pays, à la suite de la reprise des hostilités depuis le 2 mars 2026. Alors qu'elles arrivent dans le village d'Al-Tiri, elles sont ciblées par des frappes de l'armée israélienne. Une première attaque vise la voiture de personnes qui les accompagnaient, tuant deux hommes. Ensuite, deux autres frappes ciblent la voiture des journalistes, puis le bâtiment où elles s'étaient réfugiées. Amal décède le jour même de ses blessures. Zeynab est grièvement blessée. Elle sera l'unique survivante de ces attaques. Nous avons recueilli son témoignage ainsi que celui des secouristes. Des propos corroborés par des documents audiovisuels, des rapports de coordination et des comptes rendus externes que nous avons analysés. Les conclusions de notre enquête sont formelles. L'armée israélienne bénéficiait des informations suffisantes pour savoir qu'il s'agissait d'attaques directes contre des civils. Nous dénonçons une violation du droit international humanitaire et demandons l'ouverture d'une enquête pour crimes de guerre. Les secours ont été prévenus seulement une minute après la première frappe. C'est Moussa Shaala, secouriste de la défense civile libanaise, qui reçoit l'appel. Il prévient alors immédiatement ses collègues de la défense civile, de la Croix-Rouge libanaise, ainsi que des membres de l'armée libanaise chargés de coordonner les demandes de désescalade par le biais du mécanisme de surveillance. Lorsqu'il se rend sur place, Moussa est contraint de s'arrêter à un poste de contrôle militaire libanais à l'entrée d'Al-Tiri. Les secouristes, eux, attendent encore l'autorisation de l'armée israélienne pour entrer dans le village en toute sécurité. D'après le témoignage de Zeynab, toutes les personnes contactées durant l'attaque ont répondu qu'elles ne pouvaient pas venir jusqu'à elles car elles attendaient l'autorisation du mécanisme de surveillance. Une autorisation qui signifie que l'armée israélienne accepte de cesser le feu pour permettre aux équipes de secours d'intervenir. Ce n'est que peu après 17 heures que l'autorisation d'accéder à la zone a été accordée par l'armée israélienne. Dans un premier temps, uniquement à la Croix-Rouge libanaise. Les secouristes ne parviennent à extraire que Zeynab Farage des décombres, avant de se retirer, craignant de nouvelles attaques. À 19h20, les secours reviennent sur place avec du matériel pour déblayer les décombres. Les opérations débutent vers 21h. Amal Khalil est retrouvée enterrée sous une colonne et un mur. Elle était totalement écrasée. Je l'ai sortie de mes propres mains, a déclaré Moussa Shaalan. Elle avait succombé à ses blessures. Pendant les 2 heures de l'attaque, 2 drones de surveillance survolent la zone à très basse altitude. Grâce à eux, l'armée israélienne sait ou aurait dû savoir que les 2 hommes ciblés par l'attaque n'avaient pas survécu à la première frappe. Pourtant, elle a poursuivi les attaques et la traque contre les 2 journalistes. Dans un communiqué publié le soir même, l'armée israélienne déclare que des vandales ont franchi la ligne de défense avancée et se sont approchés d'une manière qui constituait une menace immédiate. Après avoir établi qu'ils enfreignaient l'accord de cesser le feu, l'armée de l'air a frappé l'un des véhicules, puis visé un bâtiment où les infiltrés s'étaient réfugiés. Si Amal et Zeynab avaient effectivement pénétré une zone déclarée interdite au retour des populations civiles, rien ne justifiait le ciblage délibéré de 2 journalistes. Par ailleurs, déclarer Al-Tiri comme zone de défense avancée ne permet pas à l'armée israélienne d'en faire une zone de tir aveugle. À tout moment et en tout lieu, y compris dans les zones interdites, l'armée israélienne doit faire la distinction entre civils et combattants. Nous dénonçons une grave violation du droit international humanitaire. En vertu de ce droit, les civils ne peuvent pas être pris pour cible, sauf s'ils participent directement aux hostilités et pendant la durée de cette participation. Il incombe à la partie attaquante de tout mettre en œuvre pour vérifier si une personne est un combattant pouvant être attaqué. En cas de doute, il faut la considérer comme un civil. Les attaques directes contre des civils et les biens de caractère civil sont interdites et constituent des crimes de guerre. En vertu du droit international humanitaire, les journalistes sont des civils et doivent donc être protégés. Amal Khalil n'est pas un cas isolé. Depuis octobre 2023, Israël multiplie les frappes aériennes illégales au Liban. Malgré la conclusion d'un accord de cessez-le-feu, le 27 novembre 2024, les hostilités se poursuivent à la frontière et se sont à nouveau intensifiées depuis le 2 mars 2026. Ces attaques ciblent délibérément les civils, y compris les journalistes et le personnel de santé. En 2023, nous avions déjà dénoncé le meurtre du journaliste de Reuters, Issam Abdallah. Notre enquête avait révélé que la frappe aérienne de l'armée israélienne avait tué et blessé 6 autres journalistes. Nous avons demandé à de multiples reprises que ces crimes fassent l'objet d'enquêtes pour crimes de guerre. Cette fois encore, nous appelons à la mise en place d'une enquête indépendante et impartiale. L'impunité persistante dont jouit Israël ne fait qu'encourager l'armée israélienne à poursuivre ses crimes, sans craindre de devoir rendre des comptes. Il est grand temps que la communauté internationale impose à Israël un embargo total sur les armes. Nous appelons par ailleurs le gouvernement libanais à accepter la compétence de la Cour pénale internationale pour les crimes commis sur son territoire depuis octobre 2023 et à mettre en place des enquêtes nationales sur les crimes de guerre. Nous écoutons maintenant une chanson de HK, Les âmes libres.
Avec l'autorité, surtout quand elle est dévoyée, qu'elle revient avec insistance insulter notre intelligence. Quelle est notre place dans ce monde qui voudrait tant qu'on obéisse, qu'on ne questionne ni ne réponde, et que jamais on s'affranchisse.
Ils n'aiment pas les âmes libres. Les âmes libres.
Ils ont besoin de tiroirs, de cases, de cages et d'étiquettes. Ils ont besoin de pouvoir mettre un numéro sur nos têtes. Un monde bien rangé, des places en bas que l'on assigne. Prière de ne pas déranger, ne pas enfreindre les consignes. Nous qui n'aimons pas faire silence, nous qui sommes de ceux qui s'entêtent, sans couverte et sans révérence, nous nous invitons à la paix.
Ils n'aiment pas les âmes libres.
Oh non, 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 non.
Ils n'aiment pas les âmes libres.
Comme si tout leur appartenait, nos vies, nos esprits, nos pensées. Ils sont méprisables et jugeants, pour eux nous sommes de pauvres gens. Sans eux nous serions condamnés, comme un troupeau sans son berger. ont-ils peur que les âmes libres, tel un virus planétaire, viennent briser leur équilibre, contaminer la terre entière.
Ils n'aiment pas les âmes libres. Les âmes libres. Ils n'aiment pas les âmes libres. Ils n'aiment pas les âmes libres.
Oh non, 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 non.
Voilà, Amnesty International, donc, est la plus grande organisation de défense des droits humains. Et elle est essentiellement composée de bénévoles. Alors, bien sûr, il y a aussi des salariés. Mais la grande majorité des personnes qui travaillent à Amnesty sont des bénévoles. Nous allons écouter la parole de ces militants. Peut-être elle vous incitera à venir nous rejoindre. Nous avons besoin de monde pour nos actions, alors n'hésitez pas à la suite de ce reportage à nous contacter si vous voulez faire partie d'Amnesty International et agir avec nous dans notre groupe d'Amnesty Digne ou alors à Amnesty Manosque ou Amnesty Barcelonnette puisque ce sont les trois groupes du département. Voilà, on écoute ces militants.
Amnesty, c'est un mouvement international génial.
Pourquoi pas rejoindre une structure locale, on en a 400 en France, de rejoindre des commissions thématiques.
Il y a par exemple des commissions femmes, peine de mort, torture, climat, LGBTI+.
Et militer sur le terrain en faisant des actions de rue ou tenir des stands, ce genre de choses.
Tous les ans, depuis 9 ans, j'ai des gamins qui viennent me voir à la rentrée en me disant l'antenne jeune, ça recommence quand ?
Écrire des lettres, signer des pétitions, organiser les 10 jours pour signer,
pour protéger et venir en aide à 10 défenseurs des droits humains.
Écrire aux députés.
Après, on peut prendre des responsabilités au niveau local, au niveau régional, au niveau national.
On passe des films avec débat sur les droits humains.
Amnesty, pour moi, c'est défendre les droits humains, c'est clair, mais dans toutes les situations.
Voilà, c'est du militantisme bénévole. Mon engagement, il reste complètement personnel, mais il intègre une collectivité, une communauté qui est vraiment portante.
Si vous avez moins de temps, une autre possibilité, c'est de rejoindre les communautés grandissantes d'activistes en ligne, la communauté tous mobilisés pour les droits humains.
Amnesty, c'est une grande famille, en fait, et on peut participer à des événements culturels où il y a la fête le soir.
Ce que ça m'a apporté en tant que militante, c'est vraiment des compétences. On a vraiment un encadrement sur l'information, sur la formation.
On fait une veille du pays et on permet d'apporter une analyse et du contexte sur ce qui se passe dans le pays.
Ce que l'on défend, c'est pour tout le monde.
Des avocats comme des simples mères de famille, mais qui se donnent à fond.
Et j'avais vraiment envie de me rendre utile et de, à mon échelle, de faire quelque chose qui ait de l'impact.
Ça peut paraître un peu bizarre de dire qu'on sauve des vies, mais c'est le cas de le dire.
Et quand je fais de l'éducation aux droits de l'homme, c'est pour ça, c'est pour que ce monde soit meilleur.
Pour ceux qui ont envie de cette stimulation intellectuelle, il faut venir à Amnesty International.
C'est tellement enrichissant de militer avec des gens et de partager les mêmes valeurs, les mêmes combats.
Ensemble, évidemment, on est plus fort. Donc,
rejoignez Amnesty International.
Voilà, donc, n'hésitez pas hein, à nous rejoindre. Vous avez entendu tout ce que l'on peut faire à Amnesty, et c'est ce qu'on fait aussi au groupe de Dean, puisque on fait de l'éducation aux droits humains, on organise une foire aux livres, et puis on organise des ciné-débats, toutes choses des signatures de pétitions, etc. Voilà. On va maintenant écouter une chanson d'un ami dinois qui est très proche d'Amnesty, du groupe de Dean. Il s'appelle Jacques Lerre. Et il avait fait, il y a quelques années, une chanson qu'il avait créée lui-même, paroles et musique, qui s'appelle Amnesty, Amnesty.
Pour seul délit, j'ose penser, trop fort, trop la liberté. Je refuse la dictature, quelques barreaux et quatre murs. Je me retrouve emprisonné, mon intégrité torturée. Ils ont muré mon âme, Amnesty, Amnesty. Allume ta bougie, Amnesty, Amnesty. Écris-moi, je t'en prie, libère le vol de la colombe, éclaire cet horizon si sombre. Ma faiblesse est d'être un enfant, né d'une ville à feu à sang. Ils ont mis dans mes mains une arme, pour venger mon peuple et mes larmes. Alors je tire sur des ennemis, qui étaient hier mes amis. Ils ont blessé mon âme, Amnesty, Amnesty. Allume ta bougie, Amnesty, Amnesty. Écris-moi, je t'en prie, je ne veux plus creuser des tombes, mais voir voler haut la colombe. Je suis né seul, je suis né pauvre, je n'ai joli livré aux fauves, qui m'offre une cage dorée, où je me sens sali, bafoué, privé de mon identité, abusé, caché, oublié. Ils ont violé mon âme, Amnesty, Amnesty. Allume ta bougie, Amnesty, Amnesty. Écris-moi, je t'en prie, efface les souillures immondes, déploie les ailes de la colombe. Mon cœur est guidé par un dieu, mais chez moi il n'en faut pas deux. Ils m'ont forcé à le renier, sous une épée je dois prier, sous peine de connaître l'enfer et terminer six pieds sous terre. Ils crachent sur mon âme, Amnesty, Amnesty. Allume ta bougie, Amnesty, Amnesty. Écris-moi, je t'en prie, les dieux volent en paix et en ombre sous les ailes de la colombe. Seul délit est de défendre ce qu'on veut torturer et pendre, d'agir pour que les droits de l'homme ne s'effacent pas d'un coup de gomme. Mon engagement clair et lucide dérange les liberticides. Ils enchaînent mon âme, Amnesty, Amnesty. Allume ta bougie, Amnesty, Amnesty. Écris-moi, je t'en prie, tes coups de plume sur le monde, ouvre la cage de ma colombe. Amnesty, Amnesty, allume tes bougies. Amnesty, Amnesty, écris-nous, je t'en prie. Amnesty, Amnesty, j'allume ma bougie. Amnesty, Amnesty, pour libérer, j'écris.
Voilà, alors maintenant, je vais vous parler un peu du groupe dinois. Donc, on avait une action suivie. Vous savez qu'on fait signer des pétitions pour de nombreuses personnes. Et puis, une fois ces pétitions faites, on suit ces cas. Et à Digne, on avait le cas de Luis Manuel Otero Alcantara, qui est un artiste cubain, qui s'est opposé avec d'autres à un décret du gouvernement, un décret qui faisait une censure sur les artistes. Il a été arrêté, condamné à 5 ans de prison. On a écrit régulièrement pour demander sa libération, etc. Et je pense qu'on a amélioré ses conditions de détention, puisqu'il a pu un peu travailler en prison. Et puis aussi qu'on lui a donné un peu de l'espoir et la rage de se battre. Et puis finalement, bon, il a fait ses 5 ans. Au bout des 5 ans, on a été très inquiets parce que le gouvernement l'avait fait disparaître. Pendant 3 jours, on ne savait pas où il était. Et finalement, ils l'ont extradé aux États-Unis, à Miami, où il y a une forte communauté de Cubains. Donc, on l'a vu arriver à Miami. Il avait l'air en assez bonne santé, souriant. Mais bon, il a été chassé de son pays, privé de sa famille, chassé de sa maison. Hein. Donc, c'est quand même difficile. Mais il est libre. Il est libre, il va pouvoir à nouveau créer et voir un peu tout ce qui a été fait pour lui. Il en a entendu bien sûr parler. À Digne, on avait interpellé des artistes qui ont fait des œuvres vraiment magnifiques en pensant à lui, sur lui, pour la liberté de créer. Et on avait d'ailleurs fait des expositions à Digne, à Malmoisson, à Sisteron. Et c'est une grande joie pour tous ces artistes de le savoir enfin libre. Voilà. Alors, on se réjouit. Je pense qu'à la prochaine réunion, on va discuter et demander peut-être une nouvelle action suivie, c'est-à-dire un nouveau dossier d'un prisonnier où nous, tout au long de l'année et jusqu'à sa libération, nous interviendrons comme on a fait pour Luis Manuel Otero Alcantara. Voilà, alors la réunion du groupe, c'est mercredi 30 septembre à 17h, salle des associations à côté de la mairie de Digne. Donc n'hésitez pas, si vous voulez venir voir et participer à nos actions, n'hésitez pas à venir voir comment se passe une réunion. Donc je répète, mercredi 30 septembre à partir de 17h dans la salle des associations. C'est les salles qui sont à droite de l'atrium. Voilà. Et puis, je vous informe qu'on va faire notre foire aux livres d'automne les 15, 16 et 17 octobre 2026. On n'en fait plus qu'une par an et donc on va un peu augmenter les périodes de vente. On vendra le jeudi 15 de 14h à 18h, le vendredi 16 de 9h à 18h, non-stop, hein, ce sera ouvert entre midi et 2. Et puis le samedi, on vendra de 9h à 15h. Voilà. Alors, n'hésitez pas à venir faire le plein de lectures pour l'hiver. Vous verrez qu'il y a énormément de nouveautés à des prix modiques. Et ça permet de financer nos actions, la recherche, les actions. Voilà. Alors, n'hésitez pas à venir. Et si vous voulez nous aider à installer et désinstaller la foire, nous vous donnons rendez-vous le mercredi 14 à partir de 14h devant l'atrium pour tous ceux qui veulent. Et pour désinstaller le samedi 17 octobre à partir de 15h à l'atrium aussi. Alors voilà, il y a du travail, il faut porter les caisses pour ceux qui ont assez de force. Et puis, il faut ranger aussi. Donc, on a aussi besoin de petites mains parce que c'est important que les livres soient bien rangés, soient classés par catégorie pour que ce soit agréable lors de la visite. Et en général, on a quand même beaucoup de monde, beaucoup de gens qui attendent avec impatience notre foire aux livres. Voilà les informations du groupe Dinois. On finit par une chanson de HK aussi, « Le cœur au vent ». Thank you.
Je ne demande pas la lune, pas une seconde d'attention. Je ne réclame pas la fortune, ni la gloire, ni l'admiration. Ne m'enlevez pas mes poèmes, ne me prenez pas mes chansons. Je suis prêt à mourir sur scène si on m'en offrait l'occasion. Je voudrais jouer cette vie comme on joue au jeu de ballon. Me balader de ville en ville, de guitare en accordéon. La tête en l'air, les pieds ballants, les bras ouverts, le cœur au vent. J'aimerais prendre tout mon temps, puisqu'il paraît qu'il est compté. En compagnie, c'est important, de gens sur qui on peut compter. Des gens qu'on aime et qu'on admire, amis de la simplicité. Vivre de musique et d'amour, en défendant nos libertés. La tête en l'air, les pieds ballants, les bras ouverts, le cœur au vent. Savoir se battre quand il le faut, pour les autres et pour soi-même. Dénoncer l'injuste et le faux, pour mieux soigner les cœurs qui saignent. Se souvenir de tous ces mots qu'on nous a appris à l'école. Ne pas perdre ses idéaux au premier avion qui décolle. La tête en l'air, les pieds ballants, les bras ouverts, le cœur au vent. La tête en l'air, les pieds ballants, les bras ouverts, le cœur au vent. Rester enfant toute son âme, ne pas écouter les adultes. Chasseur d'espoir, souffleur de flamme, pour eux rêveur est une insulte. Faire de sa vie une œuvre d'art, de son art une résistance. Et sourire aux étoiles d'un soir, en leur offrant une autre danse. La tête en l'air, les pieds ballants, les bras ouverts, le cœur au vent. La tête en l'air, les pieds ballants, les bras ouverts, le cœur au vent.